Quel est le sort de l'apôtre Judas Iscariote? Quel est le sort éternel de Judas Iscariote? On en parle dans la première lecture, c'est celui qui a déserté son office, qui a déserté sa responsabilité d'apôtre en trahissant Jésus. On en parle dans l'Évangile quand Jésus dit « J'ai gardé tous ceux que tu m'as confiés, sauf celui qui s'en va à sa perte ». Est-ce qu'il est au paradis? Est-ce qu'il est en état de purgatoire? Est-ce qu'il est en enfer? L'Église n'a pas la réponse à cette question. Elle a reçu de l'Esprit-Saint la capacité d'attester pour certaines personnes qu'elles étaient au ciel, qu'elles étaient au paradis, et c'est ce que l'on appelle une canonisation. On déclare solennellement que telle et telle personne est sainte. C'est ce qui est arrivé en 2017. Vous voyez ici, vous avez les portraits des trois enfants qui ont vu la Vierge Marie à Fatima en 1917. Il y en a deux d'entre eux qui sont morts dès 1919 de la grippe espagnole, à plus à droite Jacinthe et au milieu François, qui ont été canonisés par le pape en 2017. On a la certitude qu'ils sont auprès de Dieu. L'Église a reçu de l'Esprit-Saint cette capacité d'attester que certaines personnes étaient au ciel, mais elle ne possède pas la connaissance sur qui est en enfer, sur qui est pour l'éternité séparé de Dieu. On sait que le diable et les démons y sont, mais en ce qui concerne les hommes, cela est dans le secret de Dieu. En tout cas, nous savons que ce que Judas a commis est grave, est très grave. Il y a plusieurs avertissements dans les évangiles, avant l'acte même de la trahison, qui nous le font comprendre. Jésus dit par exemple, « Le Fils de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit de lui, mais malheur à cet homme-là par qui le Fils de l'homme est livré, mieux eût valu pour cet homme-là de ne pas naître. » Saint Jean, l'évangéliste, précise que l'idée de trahir Jésus est inspirée par le diable, alors qu'au cours d'un repas, le diable avait déjà mis au cœur de Judas Iscariote le dessein de le livrer. Et lorsque Judas se lève de table pour aller voir les grands prêtres, l'évangéliste ajoute « Après la bouchée, Satan entra en lui. » C'est quelque chose de grave, de très grave qui s'est produit. Et il est utile pour nous de méditer sur ce qui s'est passé pour Judas et la gravité de son acte, pour prendre conscience que nous ne sommes pas à l'abri de toute chute, ni même de toute chute grave. Ce n'est pas parce que nous sommes baptisés, que nous avons fait notre première communion, notre confirmation, que nous sommes à l'abri de toute chute grave. Judas Iscariote était un apôtre et il a commis un acte très grave. C'est un acte de sagesse de savoir que nous pouvons chuter. De la même façon, j'allais dire que c'est un acte de sagesse que de savoir que, par exemple, si le vin peut être bon au goût et réjouir le cœur de l'homme, il peut provoquer aussi l'ébriété et la gueule de bois et l'addiction. Il faut connaître les dangers de l'existence. Mais on peut se poser plusieurs petites questions. Est-ce que Judas était prédestiné à trahir ? On nous dit en effet qu'il fallait que les Écritures s'accomplissent. Saint Jean relève d'ailleurs la parole de Jésus, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze, et l'un d'entre vous est un démon ?» Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote. C'est lui en effet qui devait le livrer, l'un des douze. Alors est-ce qu'on peut penser que Jésus a choisi celui-ci justement parce qu'il était mauvais ? Non. Saint Luc précise en parlant de Judas, « Judas Iscariote, qui devint un traître. Il le devint. Ce fut un processus, il n'était pas destiné à cela. » Ça, c'est vraiment quelque chose de très important à retenir. Dieu ne prédestine personne au péché. Dieu ne prédestine personne à l'enfer. Dieu n'a créé personne pour qu'il soit séparé de lui. Le projet de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Saint Paul nous le rappelle dans la première épître à Timothée, au chapitre 2, au verset 4. Et d'ailleurs, en Saint Matthieu, tous les apôtres s'interrogent quand Jésus dit qu'il va être livré par l'un d'entre eux. Tous se demandent, serait-ce moi ? Personne ne se sent complètement à l'abri d'un tel acte. Judas avait vraiment reçu la charge et la grâce d'être apôtre. Il avait annoncé l'évangile en Galilée et en Judée. Il avait été envoyé en avant de Jésus avec un autre apôtre pour prêcher, guérir les malades, chasser les démons. Mais voilà que il a abandonné sa charge. Alors, est-ce que cela se serait produit parce qu'il aurait été négligé? Vous savez, ça nous arrive, hein, on était dans un groupe, on avait notre place, et puis on a finalement l'impression que les gens font plus trop attention à nous. On n'est plus très sûr d'avoir notre place. On n'est plus très sûr d'être aimé. Est-ce que Judas s'était senti négligé et c'est pour cela qu'il s'était aigri? Vraisemblablement pas, parce que Judas, on nous dit qu'il tenait la bourse, c'était une marque de confiance. Au dernier repas, plus encore, il doit être placé tout à côté de Jésus, parce qu'on nous dit que Jésus lui donne une bouchée avec sa main. C'est une place d'honneur. Il y avait le disciple que Jésus aimait, et Judas, les deux entouraient Jésus, c'est une place d'honneur. Et même au jardin de Gethsémani, lorsqu'il arrive avec les gardes pour livrer Jésus, Jésus l'appelle encore « ami ». C'est difficile de dire qu'il était négligé. Alors, peut-être qu'on avait omis de le mettre en garde. Vous savez, c'est notre responsabilité est parfois réduite parce qu'on ne savait pas que c'était dangereux. Ah oui, tu t'es brûlé en mettant la main sur la plaque, j'aurais dû te dire qu'elle était encore chaude. On m'avait pas prévenu et j'aurais pu faire autrement. Pourtant, Jésus a plusieurs fois annoncé qu'il serait livré. Et nous avons entendu sa lamentation au sujet de celui qui le livrerait. Malheureux celui qui le livre, il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût pas né. Quand Judas, à son tour, demande à Jésus, serait-ce moi? Jésus lui répond, pour que lui entende, tu l'as dit. Au moment où il quitte le repas, Jésus s'adresse encore à lui. Ce que tu fais, fais-le vite. Une parole un peu mystérieuse, mais qui l'invite à réfléchir sur ce qu'il est en train de faire. Cette parole lui laissait la possibilité de renoncer. D'ailleurs, les autres pensent qu'il sort faire un achat ou donner quelque argent à des pauvres. Comprenons bien que énoncer la gravité d'un acte, ce n'est pas une condamnation, c'est un avertissement. Justement pour éviter que l'acte advienne et que du coup une condamnation survienne. Alors on pourrait imaginer encore, mais si Judas a chuté, était-ce que parce qu'il avait prêté un serment, il s'était engagé? Oui, il avait accepté les 30 pièces d'argent. Et donc on lui aurait dit, ah mais tu as donné ta parole, il faut que tu la tiennes. Et là il y a quelque chose d'extrêmement important à nous souvenir. Et les enfants, si vous êtes un petit peu endormis, là, réveillez-vous, c'est extrêmement important. On n'est jamais tenu par un serment qui nous oblige à faire le mal. On n'est jamais tenu à respecter un serment qui nous oblige à faire le mal. Jamais. Jamais. Alors on peut dire, ah oui, mais pourtant on a prêté serment. Alors peut-être, oui, vous avez prêté un serment qui était fou, vous avez fait une association de malfaiteurs, voilà. Vous êtes réunis avec des gens, vous dites, voilà, on va faire un attentat terroriste. Voilà, et chacun a donné sa parole. Vous n'êtes pas tenu par votre parole. Alors vos complices, peut-être qu'ils vous le reprocheront, peut-être qu'ils chercheront à faire pression sur vous, vous n'êtes pas tenu devant Dieu à un engagement à faire le mal. Alors nous aurons certainement, si nous avons prêté un tel serment, à le confesser, j'ai prêté un serment fou. J'ai prêté un serment fou. Seigneur, je te demande pardon. Et parfois, il y en a qui font des serments plus particulièrement graves en faisant un pacte avec le diable. C'est-à-dire, il ne va pas vous lâcher comme ça, vous aurez besoin de la puissance du Seigneur pour vous libérer. Mais vous n'êtes pas tenu à faire le mal. Vous n'êtes pas tenu à faire le mal auquel vous vous étiez engagé. Nous sommes tenus à vivre pour la vérité et le bien, pas pour faire le mal. Judas n'était pas tenu par un engagement à faire le mal. Et quand il prend conscience, j'ai livré un innocent. On remarque que Judas fut saisi de remords, de regrets. Il prend conscience qu'il a livré un innocent. Il veut rendre l'argent, mais les grands prêtres n'en ont cure. Il ne le délie pas du poids de sa culpabilité. Et voilà que Judas va commettre un acte encore grave, il va se pendre. Et il y a un acte de désespoir. Il y a l'idée qu'on ne peut plus vivre après un tel acte. Alors je voudrais ici distinguer trois choses avec vous. Mériter la mort d'une part, désirer la mort d'autre part, se donner la mort troisièmement. Oui, il y a des actes que nous pouvons commettre qui méritent la mort. Vous savez, quand on dit « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse », il y a une justice à penser que l'on doit porter ce que l'on provoque. On le voit dans la vie courante. Hein. « Je suis à table, je renverse la carafe d'eau, il y en a partout. » on comprend que c'est à moi d'aller nettoyer et essuyer. C'est moi qui ai causé la catastrophe. Je suis appelé à porter une responsabilité, mais il y a une responsabilité qui peut engager toute ma vie. Donc il y a des actes qui peuvent mériter la mort. Il y a une différence entre mériter la mort et qu'on applique la peine de mort. C'est autre chose, mais il y a des actes qui peuvent mériter la mort. Deuxième chose, désirer la mort. Oui, il y a des situations où notre détresse intérieure peut être si grande que l'on ne trouve plus de goût à la vie, qu'on aurait envie de mourir. Et on voit dans l'Écriture, ça arrive à des gens, entre guillemets, très bien. Moïse a connu ce moment quand le peuple murmurait contre lui. « Seigneur, si ça doit continuer ainsi, reprends ma vie. » Le prophète Jérémie également, il n'en peut plus des gens qui le persécutent. Ou Job, qui va jusqu'à maudire le jour de sa naissance, tant il est dans la détresse. On remarquera une chose, c'est que dans l'Écriture, le Seigneur ne reproche pas la prière des cœurs malheureux. Le Seigneur ne dit pas à Moïse, ne dit pas à Jérémie, ne dit pas à Job, « Tu n'aurais pas dû prier pour que je reprenne ta vie. » Jésus lui-même, en montant à Gethsémani, exprime ceci, « Mon âme est triste à en mourir. » Nous pouvons avoir dans notre cœur une peine terrible qui nous donne un dégoût de l'existence. Et nous pouvons le dire au Seigneur, nous pouvons le confier au Seigneur, et même nous sommes invités à le confier au Seigneur. Mais on découvrira que ni Job, ni Jérémie, ni Moïse, ni Jésus ne se sont donné la mort. On ne se donne pas soi-même la mort, et on ne demande pas non plus à quelqu'un de nous aider à nous donner la mort. La vie et la mort appartiennent à Dieu. On ne ferme pas l'avenir. Dis ta douleur, mais ne te supprime pas. Dis ta douleur, mais ne te supprime pas. Il y a, dans le livre de Tobie, une prière très belle de Sarah qui n'en peut plus, parce qu'elle a déjà eu 7 maris et ils sont tous morts pendant la nuit de noces, et on se moque d'elle, et on dit « Ah, mais il vaut mieux que tu restes seule, toi qui fais mourir tes maris ». Elle en peut plus. Elle pense justement à aller se pendre. Et puis elle réfléchit, « Je ne veux pas affliger la vieillesse de mon père jusqu'au séjour des morts. Je ferais mieux de ne pas me pendre, de supplier le Seigneur de me faire mourir, afin que je n'entende plus d'insultes pendant ma vie. » Elle ne veut pas qu'on blâme son père. Elle ne veut pas qu'on dise de lui, « Tu n'avais qu'une fille chérie et de malheur elle s'est pendue. » Alors elle va prier devant le Seigneur. Elle va lui dire qu'elle n'en peut plus. Que ta parole me délivre de la terre. Je ne veux plus m'entendre outrager. J'ai déjà perdu 7 maris. Pourquoi devrais-je vivre encore? S'il te déplaît de me faire mourir, regarde-moi avec pitié. Je ne veux plus m'entendre outrager. Et voilà la prière qu'elle fait monter. Elle demande au Seigneur, elle dit au Seigneur que la vie telle qu'elle la connaît est trop dure. Et en même temps, elle ne se donne pas la mort. Et elle dit, Seigneur, si tu ne veux pas me faire mourir, alors transforme ma vie. Ouvre un chemin. Et le Seigneur va ouvrir un chemin pour elle. Et le chemin qui va être ouvert va permettre aussi la guérison d'un autre. Nous sommes appelés à demeurer dans l'espérance, une espérance qui est fondée sur quoi ? Qui est fondée sur Dieu. Parce que peut-être que moi, j'ai pas d'avenir, que peut-être que les gens qui sont autour de moi, ils peuvent pas me fournir une solution miracle et qui fait que tout va bien. Mais ce n'est pas simplement à un homme que je m'adresse, c'est à Dieu lui-même. Et je voudrais, pour terminer, mettre en parallèle deux personnages, justement dans l'Évangile. Il y a deux personnages qui ont commis un acte très grave. Vous avez Judas l'Iscariote et vous avez Simon-Pierre. Simon-Pierre, comment ça ? Simon-Pierre, il s'est vanté de jamais trahir Jésus. Il a voulu suivre un peu de loin et puis il y a une servante qui le reconnaît, qui dit « Mais toi, tu étais avec Jésus ?»« Non, non, non. » Un autre qui arrive, « Mais si, mais d'ailleurs, tu es galiléen, on reconnaît ton accent. » Tu étais avec Jésus. Pas du tout, je ne connais pas cet homme. Une troisième fois. Mais tu en étais. Et par serment, il dit non, je ne le connais pas. Simon-Pierre, le chef des apôtres, a été renégat. Il a renié Jésus devant les hommes. Lui aussi pleure amèrement. Mais il ne va pas se pendre. Il va avoir confiance en ce que Dieu est plus grand que son cœur, comme le dit saint Jean. Même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Dieu est plus grand que ton cœur. Et voilà que Jésus ressuscité lui posera par trois fois la question, « Pierre, m'aimes-tu ?» À la troisième fois, on nous dit que le cœur de Pierre, le cœur de Simon-Pierre fut peiné, parce qu'il se souvient qu'il a renié trois fois Jésus. « Seigneur, tu sais tout. » Tu sais bien que je t'aime, tu sais que je t'ai trahi, tu sais que j'ai pas été fidèle, et tu sais bien que je t'aime pourtant. Et Jésus va le confirmer dans sa mission. Jésus va le confirmer dans sa mission, et Pierre, le renégat, va devenir Saint-Pierre. Pierre, qui pleurait amèrement sur son histoire, va devenir Saint-Pierre. Le Seigneur ouvre des chemins inattendus. Gardons, entrons dans cette espérance que le Seigneur donne. Ne réduisons pas notre espérance au pouvoir de nos mains. Pierre le renégat est devenu Saint-Pierre. Sachons suivre son exemple, lui qui a pleuré amèrement, mais qui ne s'est pas pendu, qui n'a pas désespéré, qui n'a pas réduit Dieu à sa mesure humaine. Seigneur, en ce dimanche, que la chute de Judas nous rende vigilants. Donne-nous la connaissance intime de ton amour, afin que nous ne nous croyions jamais au-delà de ta miséricorde, que nous ne pensions jamais être trop loin de ton pardon. Simon-Pierre, toi qui fus le renégat et qui es devenu saint, apprends-nous la simplicité avec Jésus. Simplicité pour lui présenter nos doutes, nos résistances, notre douleur. Simplicité pour accueillir sa parole qui nous corrige, qui nous redresse, qui nous donne un avenir. Esprit Saint de Dieu, viens en nos cœurs, nous t'espérons. Sanctifie-nous dans la vérité. Attache-nous au Christ et garde-nous du mauvais. Amen.